بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 12 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 31 janvier 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'apprendre ensemble notre religion et d'apprendre le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons commencer par la première moitié de sourate An-Nazi'at. Comme d'habitude, celui qui souhaite lire, il ouvre tout simplement son micro. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طيب، il y a quelqu'un qui a ouvert son micro mais je le vois pas. C'est qui a ouvert son micro?
أحمد
تفضل يا أحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب
يوم ترجف الراجفة
يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتغشى
وأهديك
ربك فتغشى إلى ربك فتغشى وأهديك إلى ربك فتغشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
حسبك إلى هنا ما شاء الله، جزاك الله خير، قراءة جميلة، بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب ننتقل للذي بعده. خديجة.
مريم
كم عمرك يا مريم؟
خمسة
سنوات، ما شاء الله.
خمسة.
أيوة. طيب تفضلي.
خمسة ونصف.
ما شاء الله. ماذا؟ تفضلي بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا وما ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه للواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فترشى
مريم
فأراه الآية الكبرى
يا مريم
نعم
Ne rigole pas. Sois sérieuse. Yalla. Fa'alahu al-ayat al-kubra.
Fakazzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fa'ajara fanada faqala ana rabbukum al-a'la.
Fa'akhadhahu
فأخذه الله لكان الآخرة والأولى
فأخذه الله نكال فأخذه الله نكال نكال الآخرة والأولى
أخذه الله لكان الآخرة والأولى
نكال نكال
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
نكال الآخرة
نكال الآخرة والأولى
إن في ذلك
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
لمن يخشى
لمن يخشى
نكالا هل تعرفين ما معنى نكال؟
لا
النكال هو العقوبة تعرفين العقوبة؟
نعم
ايش هي العقوبة؟ هي اللي تسوي لك أمي وأبي؟
لا
ما تفعل لك عقوبة ما شاء الله إذن جيد إذن أنت مؤدبة جدا ما شاء الله بارك الله فيك أحسنت يا مريم قراءة طيبة طيب
أختي تريد أن تقرأ
كم عمرها
ثمانية
وما اسمها
خديجة
خديجة ما شاء الله إذن تفضلي يا خديجة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة
تتبعها c'est un peu difficile là c'est les mêmes lettres qui se répètent تتبعها c'est un peu lourd لكن faut que tu prononces chaque lettre à part tu dis تتبعها الرادفة
تتبعها الرادفة
أحسنت
قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إن ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
إذ ناداه ربه بالوادي ربه بالوادي يا إم قلنقاشم ربه بالوادي
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
خديجة شو je veux que tu prononces très très bien فرعون فر فر را مرققة tu dis comme ça فر فر ع فر ع فرعون et non pas فرعون فرعون regarde la différence فرعون pourquoi on a tendance إلى تفخيم الراء on a tendance à prononcer را forte parce que العين elle est forte Et donc, tu vas prononcer Ra également forte. Alors que Ra ici, elle est muraqqaqa. Tu dis Fir. Fir Aoun. Fir Aoun. Tfaddali. Idhab.
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحق فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
ما شاء الله ما شاء الله الله مبارك جزاك الله خيرا طيب الذي بعد وعليكم السلام سبحان الله يعني ما أرى الاسم ما اسمك حتى أبحث عنك في القائمة
ياسمين
تفضلي ياسمين أو ياسمين أو ياسمين ما في مشكلة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذهم الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
حسبك يا سمين حسبك إلى هنا جزاك الله خيرا وبارك الله فيك قراءتك طيبة ما شاء الله طيب الذي بعد طيب ما اسمها صفية
صفية
صفية. تفضلي يا صفية. Sur Yasmine ou Yasmine, ça peut passer pour les deux. Lakin Safia ou Safia. Ismouha Safia ou Safia?
Safia.
Safia, d'accord. Yani comme le prénom de, d'une épouse du prophète, d'une mère des croyants. Safia. طيب تفضلي يا صفية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشقا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يرون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عيبا نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى راه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
أحسنتي بارك الله فيك. طيب الذي بعد. أين المتطوعين؟ أين القراء؟ أين هو جليبيب؟ Il faut savoir que celui qui est timide, il n'apprend pas. Deux n'apprennent pas, le timide et l'orgueilleux. Ceux qui se voient supérieurs, donc il ne veut pas apprendre. Non. Et aussi le timide, celui qui a peur de faire des erreurs. Laissez-moi terminer cette phrase. Celui qui a peur de faire des erreurs, il ne va pas apprendre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a appris et qui n'a pas fait beaucoup d'erreurs? Ça n'existe pas. Car faire des erreurs, ça fait partie de la réussite et du succès. Il y a ni celui qui essaye, forcément, il va faire des erreurs et c'est comme ça qu'il va apprendre et qu'il va avancer. Amma, s'il dit non, je ne vais pas lire parce que je vais faire des erreurs, en général, il ne va pas apprendre. Et Allah, tfaddal ya Julaybib. Eh, j'andak.
Oui, on a. Je la connais pas trop.
Trop? Machi mouchkil. Lis une moitié de la partie et un autre lit l'autre moitié. Comme ça, tu auras fait des efforts.
D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشقا
والناشطات
سبحا
والناشطات
والناشطات نشقا
نشطا
والسابحات سبحا
نشطا
نشطا والسابحات سبحا والسابحات والسابقات سبحا
فالسابقات Si tu as le mushaf devant toi, regarde. Aïwa, continue. C'est un bon début,
mashallah.
قلوب يومئذ
أبصار
قلوب يومئذ
واجفة
أحسنت
أبصار باخرة يقولون إنا مردودون في الحافظة
يقولون إنا أو أنت تقرأ بورش تولي عن ورش حفص دونك حفص يقولون أئنا
إن مردودون في الحافظة
أي ذا كنا صافي يلا سي بيان كافي سي بيان ما شاء الله جزاك الله خيرا طيب on va prendre un deuxième pour continuer cette partie تفضل ما اسمك أنت إسماعيل؟
إسماعيل، مي
ما عليش. On est là pour apprendre, c'est pas pour que tu nous montres ton excellence. On est là pour apprendre. يلا تفضل يا أخي إسماعيل.
أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات
لا والناشطات ماشي والنا والنا نا والناشطات
والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة شكون يسكن
ما شاء الله سي بيان بارك الله فيك طيب
بارك الله
On va prendre peut-être un dernier. Un dernier volontaire.
Anna,
volontaire.
Masmouk. Soumaya.
Farah.
Farah, mashallah. Tafaddali ya Farah.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر
لا
الليل إلا قليل
احنا نحن في سورة يا فرح نحن في سورة النازعات والنازعات غرقا
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبحا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها راجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالمقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهجاك إلى ربك فتخشى
فتخشى. لأن les deux verbes existent en arabe. تغشى وتخشى, لكن سي با لو ميم سونس. يغشى يعني يكوفر اون شوز, ويخشى يعني يكران. طيب
فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع.
لا خلاص خلاص ما شاء الله بارك الله فيك يا فرح, قراءتك طيبة. كم بلغت من العمر؟ تاكيلاج
9
ما شاء الله. Tu vis en France ou là dans un pays d'islam?
En France.
ما شاء الله. Qu'Allah te facilite et ta récitation elle est bien. T'étudies dans une école où t'apprends le Coran?
Oui.
En ligne, à distance?
Parfois je fais à distance, parfois je fais chez maman.
Mashallah. C'est bien, continue. Et t'apprends la langue arabe?
Oui, à l'école.
À l'école, quelle école?
Ça s'appelle Tariq Ibn Ziyad.
Mashallah, Annie, c'est une école, un établissement public ou privé?
Non, c'est privé.
Privé. Et Annie, c'est une école musulmane ou là, comme ils disent en France? Vous apprenez?
Musulmane.
Non, mashallah. Alhamdulillah. Qu'Allah te facilite. Et pour la langue arabe, il faut que tu apprennes et tu pratiques. Il y en a, apprendre les langues d'une manière générale sans les pratiquer, ça sert pas à grand chose. Tu vas pas évoluer. Même si tu apprends très peu et tu le pratiques, tu vas constater que tu évolues énormément. C'est pour ça il faut parler. Il faut trouver un moyen de parler. Il faut forcer tes parents à parler avec toi en arabe. Barakallahu fiki. Taïb, on va prendre Soumaya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنافقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تسرعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا مردودون في الحافة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
غبت أعيدي هذه الآية. أعيدي هذه الآية الأخيرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
ما شاء الله حسبك. كم بلغتي من العمر؟ 7 ما شاء الله. Tu t'appelles Soumaya.
Oui.
Mashallah. T'as une belle récitation, mashallah, une bonne prononciation des lettres et une fluidité dans ta récitation. C'est parfait. Continue, qu'Allah te facilite. qu'Allah te bénisse. Mashallah. Et tu apprends la langue arabe aussi?
Oui.
Et tu parles? Chouïa. Hein? Chouïa, chouïa. Faut que tu parles. Je suis sûr que tu connais beaucoup de choses. Dans les langues, ils disent que celui qui connaît 40 mots dans une langue, il est capable de s'exprimer dans cette langue. Et je suis sûr que tu dois connaître plus de 400, pas de 40. Lakin, il faut franchir le pas de parler et ne pas se sentir gêné de parler, de faire des erreurs. Ça provoque un blocage chez certaines personnes. Ils ont peur de parler et sinon ils vont faire des erreurs. C'est pas grave, si tu fais pas d'erreurs, tu vas pas apprendre. D'accord ? Ya Soumaya, barakallahu fiki wa jazakallahu khairan. طيب لعلنا نكتفي بهذا وناخذ تفسيرا مختصرا لهذا الجزء الاول من السوره المباركه سوره النازعات. سوره النازعات cette sourate c'est une sourate mekwaz. Donc qui d'entre vous peut me citer une des caractéristiques des sourates qui ont été révélées à Mecca? Mekwaz, ça veut dire elles étaient révélées avant les migrations. D'accord? Et médinoises, ce sont les sourates qui ont été révélées après les migrations vers Médine. Donc, quelles sont les caractéristiques des sourates mekwaz? Qui peut me citer une caractéristique? C'est quoi les sujets qu'elles abordent? Ça parle de quoi?
De l'unicité d'Allah, du tawhid.
Mashallah. Ça, c'est le sujet duquel parlent tous les sourates et tous les versets de le Coran. Lakin, dans les sourates mekwazes, nous allons constater, c'est encore plus fort, ce sujet-là, car à Mecca, le Coran, il s'adressait à beaucoup à des mécréants, des gens qui ne croient pas. C'est pour ça, on va pas leur parler de comment faire les ablutions, ni de comment sortir la zakat, ni de comment avoir la concentration dans la salat, et ainsi de suite. On va leur parler des fondements. C'est pour ça, dans les sourates mekwazes, Allah leur parle des fondements de la foi. Pour qu'ils deviennent croyants, et après on leur parle des détails de la législation. Pour ça, vous trouvez que ça parle de tawhid, ça parle de la résurrection, c'est-à-dire la vie après la mort. Ça parle de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du jour du jugement dernier. C'est en général ces sujets-là qui sont abordés et vous le constatez d'une manière forte dans cette sourate. Donc cette sourate, c'est sourate Nazi'at. Al-Nazi'at, ce sont des anges. Les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chargés d'arracher les âmes violemment des mécréants. Ils arrachent l'âme d'une manière très très forte du corps quand la mort arrive. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il a juré par les anges en citant certaines de leurs fonctions. Vous savez que les anges, ce sont des créatures toutes obéissantes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a créées à partir de lumière et les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle exécute tout ce qu'il leur ordonne. Et les anges n'ont pas de passion et d'envie comme les humains. C'est pour ça l'humain qui arrive à contrôler ses envies et à être dans la religion d'Allah, les savants disent qu'il sera meilleur dans le paradis que les anges même. Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amma l'ange, Allah l'a créé comme ça. Il ne peut pas faire autrement. Il est uniquement dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est des créatures qu'Allah aime énormément. C'est des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces anges ont plusieurs fonctions. Quel est le meilleur des anges? Le plus aimé, le plus proche d'Allah? Comment il s'appelle?
L'ange Jibril.
Jibril alayhi salam. Bonne réponse. L'ange Jibril alayhi salam, c'est l'ange le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est l'ange le plus grand? Yalla, je veux votre réactivité. Que vous soyez réactif. Hein? Est-ce que c'est l'ange le plus grand qu'Allah a créé? Mauvaise réponse. Allah a créé des anges qui sont beaucoup plus grands que l'ange Jibril alayhi salam. Comme ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais déjà l'ange Jibril alayhi salam, il est très grand. Il a combien d'ailes?
600
ailes. 600 ailes, Ahsan. Bonne réponse. Il a 600 ailes. Avec deux ailes, seulement de ces 600, tu ne vois plus rien. Il coupe l'horizon. Tu vois plus rien dans le ciel. S'il est dans le ciel, il écarte deux de ses ailes, tu ne vois plus rien dans le ciel. Donc c'est un ange déjà qui est très très grand. Lakin Allah a créé d'autres anges qui sont encore beaucoup plus grands que Jibril alayhi salam. Et le nombre des anges, il est immense. On ne peut pas se l'imaginer. Regardez le ciel, avec sa largesse, et avec sa grandeur, et son immensité, il n'y a pas l'endroit où tu peux mettre un doigt sans qu'il y ait un ange dans cet endroit-là. Qui accomplissent des adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans chaque ciel, il y a sept cieux. Et les anges ont des fonctions multiples selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a confié. Parmi leurs missions, c'est de prendre les âmes du corps quand la mort arrive. Et pour les mécréants, ils retirent cette âme d'une manière très forte et très violente. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى. Ensuite il a dit وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى. Il a juré par les anges qui recueillent les âmes délicatement. Et ça c'est pour les croyants. Ils retirent les âmes des croyants avec délicatesse et douceur. Et l'âme du croyant sort comme une goutte, comme la goutte tombe du robinet. Yani avec une douceur et délicatesse. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا. Il a juré une troisième fois par les anges qui voguent. Les anges qui voguent dans les airs. Qui voguent dans les airs en montant et en descendant. Selon les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Il a juré. Et ensuite il a dit, فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَى. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَى. Il a juré par les anges. السَّابِقَاتِ. يعني, qui se hâte à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se hâte à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et qui transmette ses messages à ceux qu'il veut parmi ses créatures et qui devance les autres. Ensuite il a dit فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَى. Il a juré par les anges qui exécutent les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَى. Yani, les anges qui exécutent les commandements et qui accomplissent les missions qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a confiées. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَى. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ. Et remarquez ici, Allah n'a pas cité sur quoi il a juré. Vous savez, dans la langue arabe, Al-Qasam, c'est un style linguistique. Tu dis par Allah, je vais faire telle chose. Par Allah, cette chose est vraie. C'est comme ça le style de l'Qasam, quand tu jures. Lakin ici, Allah a juré, il n'a pas cité la chose sur laquelle il a juré. Il nous a laissé la déduire et la deviner. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par les anges et par leur leur mission multiple et diverse qu'il a mentionné ici que la résurrection est une vérité. La résurrection est une vérité, c'est-à-dire la vie après la mort, c'est une vérité. Et d'où les savants ont déduit cela? Ils l'ont déduit de la suite. La suite de cette sourate, dans laquelle Allah a dit « Yawma tarjufu rajifa » le jour où la terre tremblera au premier soufflement. Le jour où la terre tremblera au premier soufflement, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Quand arrivera la fin des temps? Quand arrivera l'heure de la fin des temps? يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَ. Qui sera ce premier tremblement qui sera lui-même suivi d'un second soufflement? Ce premier soufflement qui sera suivi d'un second soufflement. Et ce jour-là, comment seront les gens? Allah a dit, قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَ. Les cœurs de certains seront ce jour-là bouleversés, perturbés, troublés à cause de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent. Et ils voient que ce qui les, yani, ils voient que ce qui les attend est pénible, est dur, est extrêmement dur. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَ. Bouleversés. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. Et les regards de ces gens-là, ce jour-là, comment ils seront? Leurs regards seront abaissés et humiliés. Ils seront abaissés, ils ne vont pas lever la tête. Leurs regards seront abaissés et humiliés. Absaruha khashi'a. Tellement ils vont voir la souveraineté et l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce qui a été promis est vérité. Ils vont voir des choses extrêmement graves et dangereuses. Et là, ils vont avoir les regrets et les remords. Ils vont avoir les regrets et les remords le jour où les regrets et les remords ne seront d'aucune utilité, ce jour-là. C'est valable dans ce bas monde. Aujourd'hui, tu fais des erreurs, tu les corriges. C'est bon. Là, avoir des regrets ce jour-là et demander à Allah de revenir dans le dunya pour faire le bien, c'est trop tard. Nous avons une seule chance, une seule vie dans cette dunya et un seul test. C'est pour ça, faut savoir que le plus important de tous les tests, de tous les examens que tu passes, et vous passez beaucoup d'examens, chaque année, chaque trimestre, des examens mensuels, des examens hebdomadaires à l'école et dans la vie, tu passes des tests et des examens pour avoir un poste, pour avoir une fonction, pour décrocher un travail. Tu passes beaucoup de tests et d'examens dans ta vie. Et ça doit te rappeler à chaque fois le plus important de tous les tests. Et dans tous les examens et les tests que tu passes, si tu les loupes, tu peux te rattraper. Là, dans celui-là, il n'y a pas moyen de se rattraper. C'est une seule occasion que tu as. C'est pour ça qu'il faut faire très attention par rapport à cet examen qui est l'examen de dunya, dans lequel nous devons nous conformer à la législation et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla dit « Absaruha khashi'a ». Qu'est-ce qu'ils disent ?« Yaquluna » أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. Ils diront, serons-nous ressuscités? Serons-nous ressuscités? Et ça c'est Al-Kuffar, dans le dunya. Al-Kuffar, quand ils étaient dans cette dunya, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, est-ce que c'est vrai qu'il y aura la résurrection? Et ça c'est pour démentir la résurrection. Ils ne croyaient pas à la résurrection. C'est pour ça que les savants ont dit « Allah a juré par les anges sur la véracité de la résurrection. »« Yaquluna inna lamardouduna fil hafira. » Serons-nous ressuscités? Ensuite, ils diront « A in aïda kunna ivaman nakhira. » alors que nous serons plus que des eaux désagrégées. Nous serons que des os, des ossements, idam, nakhira. Yani, réduites en poussière, en miettes. Est-ce que de là, on sera une nouvelle fois ressuscité? Et Allah va nous créer une deuxième fois, une deuxième création, à partir de ces miettes? Il s'étonne comment cela est possible. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Ils ajoutent, ce serait un retour bien malheureux. يعني si jamais ça arrive, يعني pour eux c'est pas possible, c'est inimaginable qu'Allah puisse les ressusciter après qu'ils soient réduits en poussière, après que leur corps disparaisse dans la terre suite à leur enterrement, ou après qu'ils soient dévorés par un animal. Comment Allah sera capable de les ressusciter? Ils ne connaissent pas l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qudrat Allah. Celui qui les a créés une première fois est bien évidemment capable de les créer une deuxième fois. La première fois, il les a créés à partir de rien. Et la deuxième fois, ils seront créés à partir du coccyx, cet os qui reste et qui ne disparaît jamais. Quand un homme est enterré dans une tombe, tout disparaît de lui au bout d'un certain nombre d'années, sauf le coccyx. Ajbudzanab. Celui-là, il reste. Et donc, ils seront créés à partir de coccyx ou même à partir de rien. Allah est capable de toute chose, mais ces gens-là ignorent qui est Allah. Ils ne le connaissent pas. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas adoré. Parce qu'ils l'ignorent. Ce sont des kuffars. قالوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةً فَإِنَّمَا. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla va leur montrer comment ceci est facile, est possible pour Allah et très facile. Comme toute chose. Tout est facile pour Allah. Il n'y a rien qui est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est facile. Allah leur a dit, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدًا. Allahu Akbar. Il a dit, il suffira pourtant d'un seul et unique soufflement. Tous debout. Tous ressuscités. Tous retrouvent la vie. Après cette mort. Et après cette période qu'ils ont passée dans leur tombe. Ou là, ailleurs. Donc il suffit d'un seul soufflement, le soufflement de la résurrection. Quand Israfil, alayhi salam, va souffler dans le corps, dans la trompe, فَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Il suffit d'un seul soufflement, et les voilà, tous ils sortent de leur tombe. فَإِذَا هُمْ بِالسَّهِرَةِ. Pour que les morts se retrouvent à la surface de la terre. Un seul soufflement, et tous, ils sont sur la surface de la terre. Ils regardent, debout, réunis, tous, rassemblés, tous. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre eux, afin de rétribuer, afin de récompenser ceux qui ont cru en lui et qui se sont conformés à sa religion par le paradis et par le bien. Et de châtier ses ennemis qui ont mécru en lui. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Donc après cette première partie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a juré par certaines de ses créatures qui sont les anges et par certaines de leurs fonctions, et Allah il jure par ses créatures pour montrer leur mérite et leur grand statut auprès de lui. Mais nous, les créatures, nous avons le droit de jurer que par Allah. C'est pas autorisé de dire sur la Mecque ou sur la tête de ma mère ou autre parmi les façons avec lesquelles certains jurent, dans lesquelles ils jurent par autre qu'Allah. Ça, c'est haram. C'est du shirk. Si tu dois jurer, déjà, tu ne dois pas jurer. Tu ne dois pas jurer. Parce que tu dis toujours la vérité. Pourquoi tu vas jurer? Jurer, c'est juste pour appuyer et confirmer que tu dis la vérité. Et tu peux en avoir besoin dans certaines circonstances. Là, qu'il entend normal, tu jures jamais. Tu dis toujours la vérité. Si quelqu'un te dit « jure », tu lui dis « non, je ne jure pas. Je dis la vérité. » Et ça suffit. Là, qu'il, des fois, dans certaines circonstances, tu peux être amené à jurer. Et donc, ça va être rare dans ta vie où tu jures. Et quand tu vas jurer seulement par Allah. Tu ne vas pas jurer sur la Mecque. Ou là, sur la tête de ta mère. D'accord? Donc ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, « Hal ataka hadith Moussa ?» L'histoire de Moïse, t'est-elle parvenue? Est-ce que tu as déjà pris connaissance de l'histoire de Moïse? Moïse, un des cinq meilleurs messagers qu'Allah a envoyé aux gens de la terre. Un des cinq meilleurs. Et même c'est le troisième meilleur des messagers qu'Allah a envoyé aux gens de la terre, après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Ibrahim alayhi sallam, ensuite Moussa alayhi sallam. Et Moussa alayhi sallam, ils disent, c'était un homme très fort physiquement. Il était très mat. Il était très mat. Et il avait les cheveux crépus. Ses cheveux n'étaient pas lisses. Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, il bégayait quand il parlait. Ils disent, il bégayait sauf quand il parlait de religion. Là, il parlait clairement. Subhanallah. Et pourtant, c'est un des hommes qu'Allah aime le plus, Moussa alayhi salam. Et nous aussi les croyants, on l'aime énormément. Vous savez qu'on aime les messagers et les prophètes plus que l'amour qu'on a pour nos parents. Car l'amour des parents, ça, c'est un amour naturel. Tu les aimes même si c'est des koufars. Tu vas les aimer. Car c'est tes parents. Mais l'amour des prophètes et des messagers, c'est un amour choisi. Tu les aimes pour Allah. Et aussi tes parents, si tu les aimes pour Allah, tu seras récompensé. Et ça sera un amour qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de l'amour naturel que nous avons tous pour nos parents. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle a l'histoire de Moussa, alayhi salam? Allah dit, idh nadahu rabbuhu bil wadi al-muqaddas Touwa. Quand son Seigneur l'appela dans la vallée sainte de Touwa. C'est l'endroit où Allah s'est adressé à lui directement. Vous savez que Moussa alayhi salam, Allah lui a parlé directement sans intermédiaire. Et c'est là où il lui a annoncé qu'il l'a choisi pour transmettre son message. Et qu'il est un de ses messagers. Moussa alayhi salam. Bilwadi al-muqaddasi Touwa. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, idhhab ila fir'auna innahu tara. Il lui a dit, rends-toi auprès de Pharaon qui se conduit en tyran. C'est-à-dire, interdis-lui cette tyrannie. Interdis-lui cette rébellion contre la volonté d'Allah et contre sa religion. Interdis-lui son associationnisme et sa mécréance et sa désobéissance. Mais fais-le avec douceur. Fais-le avec des propos doux. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans notre verset. Il a dit, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَ. Donc Allah, il ordonne à Moussa et à son frère Haroun, qui est aussi un messager et un prophète, il leur dit, quand vous allez vous adresser à Pharaon, faites-le avec douceur. Alors que dire que quand tu t'adresses à un croyant, tu dois encore être plus doux. Ça, c'est un des, quand tu t'adresses à un des plus grands tyrans. Et ça, c'est dans un premier temps. Car Moussa, par la suite, il a utilisé des termes durs avec Pharaon. Lakin, ça, c'est après que Pharaon ait montré le rejet de la vérité. Il n'a pas voulu suivre. Donc, dans un premier temps, quand on appelle les gens à la vérité, il faut qu'on ait cette douceur. Il faut qu'on leur facilite d'accepter la vérité. Car la vérité est amère. Il ne faut pas la rendre plus amère avec notre dureté. Et ça, ce n'est pas une dureté qui est demandée en religion. Quand tu appelles les gens à la vérité, tu les appelles avec douceur, avec bon comportement, avec cadeau. Tu leur offres des cadeaux, comme faisait le Nabi alayhi salam. Tu leur donnes des choses qu'ils aiment, afin de leur faciliter d'accepter la vérité. C'est ça ton intention. Donc, il a dit, فَقُولَ لَهُ هَلْ لَكَ أَنْ تَزَكَّى هَلْ لَكَ أَنْ تَزَكَّى. Dis-lui, ne veux-tu pas purifier ton âme de la souillure de l'impiété et de la mécréance et de la désobéissance. Donc, invite-le à purifier son âme et à délaisser sa mécréance et sa désobéissance. Antazaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu sois amené à le redouter et le craindre. Fa'arahu al-ayat al-kubra. Et Moussa alayhi salam lui a montré le miracle ou les miracles prodigieux les plus grands. Il lui a montré beaucoup de signes et beaucoup de miracles, comme le bâton qui s'est transformé en serpent, ainsi que les autres signes qu'Allah a mentionnés dans le Coran. Et malgré ces grands signes, et malgré ces miracles prodigieux, Pharaon a traité Moussa de menteur et a désobéi ainsi à son Seigneur. Thumma adbara yas'a. Et il s'est pas contenté de désobéir et de démentir et de traiter de menteur Moussa alayhi salam. Lakin en plus, il s'est détourné de la foi et il a persisté dans le péché et il a rassemblé ces gens. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Il a dit, je suis votre Seigneur suprême. Et remarquez, il n'a pas dit, je suis Allah, le suprême. Il a dit, je suis votre Seigneur, le suprême. Et ceci a été la cause du châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur lui. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ الْأُولَى. Donc Allah lui a infligé un châtiment dans ce bas monde et un châtiment encore plus sévère qu'il attend dans sa tombe et encore un autre châtiment plus grand après la résurrection, dans l'au-delà. Et après cette histoire, Allah dit إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Voilà bien un enseignement pour quiconque craint son Seigneur. Donc, il y a un enseignement pour nous, les croyants, et pour tous les gens d'une manière générale, dans ce récit. Allah ne nous raconte pas des histoires pour passer le temps. Allah nous raconte les histoires afin de tirer des enseignements et des leçons, et de voir quel était le sort de ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, la récompense qu'Allah a réservée à ses alliés croyants. Voilà, par rapport à cette partie. La semaine dernière, on a parlé de... Yani, je pense qu'on a parlé de Zubayr, radiallahu anhu. Donc, on va parler d'une sahabiya aujourd'hui. Et on continue avec les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On va continuer avec une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Donc on va parler de... La semaine dernière on a parlé de Hafsa, la fille de Omar radiallahu anhu. Aujourd'hui on va parler de Umm Salama. Umm Salama radiallahu anha. une des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, Ummu Salama. Ummu Salama, radiyallahu anha, déjà on commence par son nom et son prénom. Donc c'est une des mères des croyants, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son prénom c'est Hind. Elle s'appelle Hind. Bintu Abi Umayya. Ibn al-Mughira al-Makhzoumiya. Donc Ummu Salama, c'est la cousine de Khalid ibn al-Walid. C'est sa cousine. Le père de Khalid ibn al-Walid, c'est le frère du père de Ummu Salama. Et le père de Ummu Salama était un homme extrêmement généreux. Il l'appelait Zaid al-Rakib. Car quand tu voyageais avec lui, il ne te laissait dépenser rien du tout. C'est lui qui prenait en charge tous ceux qui l'accompagnaient dans ses voyages. C'était un homme très généreux. Donc Ummu Salama radiallahu anha, elle est entrée en islam très tôt, avec son mari, Abu Salama. Elle est entrée en islam très tôt avec son mari, Abu Salama. Abu Salama, il s'appelle Abdullah ibn Abd al-Asad. Et sa mère, c'est Barra bint Abd al-Muttalib. Donc la mère de Abu Salama, c'est la tante paternelle du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est Ammat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous les deux sont entrés en islam très tôt. Radiallahu anha wa ardaha. Et elle, avec son mari, ils ont fait toutes les émigrations. Vous savez qu'il n'y a pas que l'émigration de Mecca vers Médine. Avant cette émigration, il y a eu deux émigrations vers l'Abyssinie, Al-Habasha ou l'Éthiopie. Donc, Ummu Salama avec son mari, comme ils étaient très persécutés à Mecca, ils font partie des premiers à avoir émigré vers l'Abyssinie. Et ils sont revenus à Mecca par la suite. Vous savez, quand les gens ont entendu que Kuffar Quraysh sont entrés en islam, et c'était une rumeur, c'était pas vrai. Suite à cela, ils sont revenus à Mecca. Et après, ils ont émigré une deuxième fois vers l'Abyssinie. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé l'émigration vers Médine, ils ont émigré vers Médine également. Et Ummu Salama, suite à son mariage avec Abu Salama, Abu Salama c'est le frère du prophète alayhi salam par allaitement. C'est son frère par allaitement. Radiallahu anhu. Donc, après leur émigration en Abyssinie, ils ont eu leurs enfants là-bas. Elle a eu Salama. Et ensuite, à Médine, ils ont eu comme enfants Omar et Zainab et Durra. Et leurs enfants, ce sont des Sahaba, des compagnons. Donc, Ummu Salama, radiyallahu anha, on va commencer par l'histoire de son mariage avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ummu Salama a entendu du prophète, alayhi salatu wassalam, a entendu que quand l'un d'entre nous est touché par une épreuve, par une catastrophe, qu'ils ne disent que du bien. Et qu'ils demandent à Allah de lui accorder la patience. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Et de lui remplacer cette perte par meilleur. Et quand le mari de Ummu Salama, qui est Abu Salama radiallahu anhu, quand il est décédé suite à des blessures qu'il a eu dans la bataille de Uhud. Plus tard, il est décédé, radiallahu anhu, martyr, suite à ses blessures dans la bataille. Après cela, Ummu Salama a fait cette invocation. pour qu'Allah lui donne la récompense dans sa patience, dans cette épreuve, et qu'il la lui remplace par meilleur. Mais en elle, elle s'est dit, qui peut être meilleur que Abu Salama? Yani, elle avait un mari exemplaire, Abu Salama radiallahu anhu, qu'elle aimait énormément. Donc elle s'est dit, en elle, c'est pas possible d'avoir un autre mari comme Abu Salama. Lakin, elle a dit l'invocation. Elle a dit l'invocation. Et quand sa période de vétuité s'est écoulée, l'idda s'est écoulée, Abu Bakr l'a demandé en mariage. Et regardez comment ils étaient, les compagnons, radiallahu anhu, entre eux. Cette femme a des enfants. Et elle ne peut pas subvenir à leurs besoins. Donc, ils s'entraidaient entre eux de cette manière. Donc, ils cherchaient à l'épouser, déjà pour ses qualités aussi, mais aussi pour yani, prendre en charge ses enfants et la prendre en charge elle-même également. Yani, c'était comme ça entre les compagnons, radiallahu anhum. Ils s'entraidaient de cette manière. Et aussi pour épouser la femme. Il y en a, comme on va voir, Ummu Salama, c'est une des plus belles femmes. Au point où Aïcha, radiallahu anha, yani, quand le prophète sallam l'a épousée, elle entendait qu'elle était très très belle. Et elle a essayé de la voir par la suite. Elle ne l'avait jamais vue. Lakin, elle entendait beaucoup d'éloges au sujet de sa beauté. Et quand elle l'a vue, elle a trouvé qu'elle était encore plus belle que ce que les gens disaient d'elle. Qu'elle était encore plus belle que ce que les gens disaient d'elle. Donc c'était une femme très très belle, et non seulement qu'elle était belle, mais c'était une femme qui était très très intelligente. Et qui était très très sage. Radiallahu anhu. Donc, suite à cela, Abu Bakr radiallahu anhu l'a demandé en mariage. Et elle a décliné la demande. Elle n'a pas souhaité. Et le Nabi alayhi salam par la suite lui a envoyé une personne pour l'informer qu'il était intéressé et qu'il voulait l'épouser. Elle a dit, le messager d'Allah est le bienvenu. Mais je suis une femme très jalouse. Et j'ai beaucoup d'enfants qui sont en bas âge. Et je n'ai personne parmi mes tuteurs qui puisse me marier maintenant. Donc, elle a cité ces trois points. Nabi A.S. lui a dit, par rapport à tes enfants, Allah t'a suffi leur charge. Yani, tes enfants, c'est comme mes enfants. Et que le prophète A.S. va les prendre en charge, comme ses propres enfants. Il lui a dit, par rapport à ta jalousie, j'invoquerai Allah pour qu'il fasse disparaître cette jalousie. Et il lui a dit, par rapport au tuteur, je suis le tuteur de la femme n'ayant pas de tuteur. Car le prophète, c'est le gouverneur. Vous savez que dans un pays d'islam, une femme qui n'a pas de tuteur musulman, son tuteur, c'est le gouverneur, lui-même. Et ses délégués, bien évidemment, qui sont le juge et les notaires. Et donc, il lui a dit, tout est réglé. Et ensuite, elle a dit à son fils Omar, le plus âgé parmi eux, ou pas le plus âgé, lakin, à son fils Omar, elle lui a dit, marie-moi au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée. L'a épousée, radiallahu anha. Donc, Ummu Salama, également, c'était une femme qui avait beaucoup de science. Elle a rapporté énormément de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ont pris la science d'elle beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont pris la science de Ummu Salama radiallahu anha. Tayyib. Nabi alayhi salam l'a épousée en l'an 4 de l'Hégire. En l'an 4 de l'Hégire. Comme on a dit, après la mort de son mari, suite à des blessures dans la bataille de Badr. Et Umm Salama, elle a une histoire un peu longue, laquelle je vais la résumer. Elle a une histoire incroyable. Sa tribu l'ont empêché d'émigrer vers Médine avec son mari. Ils lui ont dit, tu sors pas. Et ils l'ont empêché d'émigrer. Et son mari a fait l'hijra quand même. Et elle est restée bloquée à Mecca. Et elle pleurait énormément jusqu'à ce que sa tribu qui sont des mécréants ont pitié d'elle. Et lui ont autorisé de partir par la suite. Je me rappelle pas au bout de combien de temps, lakin à peu près une année ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils lui ont autorisé de partir par la suite. Et elle a émigré avec ses enfants toute seule, c'est-à-dire sans mahram. Et de là, les savants ont pris que c'est autorisé pour la femme de voyager sans mahram dans un seul cas seulement. C'est pas autorisé pour faire le pèlerinage. C'est pas autorisé pour faire l'umra. Car la femme n'ayant pas de mahram, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour elle. Et l'umra n'est pas obligatoire pour elle. Lakin l'hijra, elle est obligatoire pour tout le monde, pour préserver sa religion. Et c'est pour ça, la femme n'ayant pas de mahram, elle peut voyager avec l'intention de l'émigration, même si elle n'a pas de mahram. Même si elle n'a pas de mahram. Et ça, c'est une exception. Donc, Umm Salama radiallahu anha est partie toute seule. Et sur le chemin, ça a coïncidé avec le voyage d'un homme qui était mécréant à l'époque. Il s'appelle Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha. Il l'a croisé à la sortie de Mecca. Il a su qui elle était. Et regardez, ça, c'est un homme mécréant. Lakin, le comportement qu'il a eu avec Umm Salama, malheureusement, aujourd'hui, on trouve des musulmans qui n'ont pas ce comportement avec leur sœur fillah, subhanahu wa ta'ala. Donc, regardez, cet homme, c'est un mécréant. Lakin, il va entrer en islam par la suite. Lakin, durant ce voyage, il était mécréant. Donc, il l'a accompagné et il l'a protégé durant ce voyage. Il la conduisait sur sa monture jusqu'à arriver à Médine. Il ne l'a pas regardée. Et il ne parlait pas avec elle, yani, qu'à distance, dans des cas où c'était nécessaire de parler d'un point pour son intérêt. Lakin, en tout cas, c'était un brave homme, un homme digne durant ce voyage. Et qui sait que peut-être que c'était ça la cause pour laquelle Allah l'a guidé dans l'islam. Il est entré en islam, qu'Allah l'agrée, Uthman ibn Talha. Lakin, durant le voyage, il n'était pas encore croyant. Parmi les choses qui indiquent également la sagesse et la science de Umm Salama radiallahu anha, vous savez, quand le prophète alayhi salam est venu avec ses compagnons, l'année de l'Hudaybiyah, ils sont venus pour faire l'Umrah. Et Kuffar Quraysh les ont empêchés. Et Nabi alayhi salam a signé un pacte avec Kuffar Quraysh pour qu'ils ne fassent pas de Umrah cette année, qu'ils la font et qu'ils la fassent que l'année suivante. Et les compagnons, il a ordonné aux compagnons par la suite de se couper les cheveux afin de se désacraliser. Ils n'ont pas exécuté directement. Pourquoi ils n'ont pas exécuté cet ordre du prophète alayhi salam? C'est pas par désobéissance, mais ils espéraient que ce jugement soit abrogé et que Allah leur permette de faire l'umrah. Car, ils n'avaient jamais fait cette umrah dans l'islam comme ça. C'était la première fois où ils voulaient, donc ils étaient très attachés à cela. Donc ils attendaient. Et ça a provoqué une peine pour le prophète alayhi salam de voir les compagnons ne pas exécuter son ordre directement. Il est rentré chez lui, il a parlé à Umm Salama. Il lui a dit, regarde ce qu'ils font, et je leur ai ordonné de couper les cheveux et de se désacraliser, ils ne l'ont pas fait. Et Umm Salama radiallahu anha, elle a compris que ce n'était pas une désobéissance de la part des compagnons. Lakin, ils espéraient de faire l'umrah. Qu'est-ce qu'elle a dit au prophète? Elle lui a dit, sors et coupe tes cheveux et tu vas voir, ils vont tous le faire. Et c'est ce qu'il a fait. Il est sorti, il a coupé ses cheveux. Et après, les compagnons, ils ont tous coupé les cheveux avec une vitesse, une rapidité, au point où certains ont pu faire du mal aux autres. Tellement ils voulaient aller vite. Radiallahu anhu. Et ça indique la sagesse de Umm Salama. Et ça indique aussi la sagesse du prophète, alayhi salam. Regardez l'homme sage. Il accepte les conseils. Même si le Nabi alayhi salam est meilleur que Umm Salama. Lakin, si quelqu'un, même s'il est inférieur à toi, te donne des bons conseils, prends-les. Et c'est ce que le Nabi alayhi salam a fait. Ça, c'est aussi, il y a quelque chose qui concerne Umm Salama, radiallahu anha. Umm Salama, radiallahu anha, ses mérites sont très nombreux. J'essaie de garder que quelques-uns pour... sinon, ça prend beaucoup de temps. Donc, pour terminer, Umm Salama, radiallahu anha, est décédée. C'est la dernière des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui restait en vie. Donc, elle est la dernière qui est décédée parmi les épouses du prophète, alayhi wa sallam. Ils disent qu'elle est décédée en l'an 64 de l'Hégire. Qu'elle est décédée en l'an 64 de l'Hégire. Elle a vécu à peu près 90 ans. Elle est morte, elle avait à peu près 90 ans. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah fasse miséricorde à toutes les épouses du prophète, alayhi wa sallam, et à tous les compagnons de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. والله أعلم وصلى الله على محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم يعني j'ai oublié de mentionner un point que je vous l'ai déjà dit. Vous savez que les épouses du prophète عليه الصلاة والسلام elles formaient deux clans par rapport aux affinités, la jalousie ou là des choses comme ça qui sont naturelles chez les femmes. Il y avait un clan dans lequel il y avait Aïcha radiallahu anha, et avec elle il y avait Hafsa. Et il y avait Safiya et il y avait Saouda. Ça, c'est ce qu'on appelait le clan de Aïcha. Avec elle, elle avait Hafsa. Il y avait Hafsa, la fille de Omar ibn Khattab, et Safiya et Saouda. Et dans l'autre clan, qu'on appelait le clan de Zaynab bint Jahsh. Vous savez que Zaynab, c'est une cousine du prophète, alayhi salam. Le Nabi, alayhi salam, l'aimait énormément. C'est pour ça qu'il y avait de la jalousie. Aïcha, elle avait, radiallahu anha, de la jalousie vis-à-vis d'elle, beaucoup de jalousie. En plus, c'était une très très belle femme, Zaynab bint Jahsh. Et c'était une femme très très pieuse et très très généreuse, radiallahu anha. Et donc, ça provoquait des jalousies. Et yani, ça, c'est des choses naturelles chez les femmes. Lakin, ça n'arrive jamais à faire du mal. Ou c'est pas une jalousie où la femme va faire du mal ou la mentir sur l'autre ou la... essayer de lui faire du mal. Non. Ça reste dans les limites de ce qui est autorisé, de ce qui est naturel chez la femme. Et donc, Umm Salama, pour voir, pourquoi j'ai pensé à ça, pour voir comment était Umm Salama, radiallahu anha. Umm Salama, elle était, si on peut le dire comme ça, entre les deux. Donc, les deux clans étaient satisfaits de Umm Salama. Et elle était proche de tous, au point où quand ils voulaient, quand les épouses du prophète alayhi salam avaient une demande à faire au messager d'Allah alayhi salam, ils choisissaient qui pour transmettre ce message? Ils choisissaient Umm Salama. Donc ils choisissaient la femme sur laquelle il y a un accord et unanimité chez les deux clans. Radiallahu anha. Voilà pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Si vous avez une question ou quelque chose.
السلام عليكم ورحمة
الله. نعم.
C'est quoi la meilleure technique pour je finis le Coran?
نعم. Quelle est la meilleure technique? C'est une très bonne réponse. Pour que tu finisses le Coran, faut que tu saches tout d'abord que mémoriser le Coran est une adoration. mémoriser le Coran, c'est une adoration. Comme la salat. La salat, c'est une adoration, n'est-ce pas? Donc, est-ce que quand tu commences la salat, tu dis quand est-ce que je vais terminer la salat? Non. Tu n'es pas préoccupé non. par le moment où tu vas la terminer. Mais tu es préoccupé par le fait d'être bien dans ta salat et d'être concentré et de la faire comme Allah t'a ordonné, n'est-ce pas?
Non.
Donc ça, c'est la plus importante de toutes les techniques pour apprendre le Coran, c'est de savoir que le mémoriser est une adoration et tu regardes selon ce que tu peux mémoriser quotidiennement. Le plus important, c'est la constance et non pas la quantité de ce que tu vas mémoriser, mais de mémoriser tous les jours ce que tu peux mémoriser. Et de continuer jusqu'à le terminer. Et de savoir que ton degré dans le paradis sera au dernier verset que tu vas mémoriser dans le Coran. Et que les gens qui vont avoir le degré le plus élevé dans le paradis, c'est ceux qui mémorisent le Coran en entier. Et de veiller à le mémoriser et à le mettre en pratique aussi. Si tu apprends quelque chose dans le Coran, tu la mets en pratique, ça te facilite de le mémoriser. Et le plus important dans la mémorisation du Coran, c'est la révision. C'est de faire beaucoup d'efforts sur la révision, même plus d'efforts sur la révision que sur la nouvelle mémorisation. La nouvelle mémorisation, tous on l'aime. On veut mémoriser. Notre nefs aime mémoriser des choses nouvelles. Lakin, notre nefs n'aime pas autant réviser ce qu'on a déjà mémorisé. On a plus de lourdeur. C'est pour ça qu'il faut s'habituer à la révision. Avant de mémoriser, tu révises déjà ce que tu as déjà mémorisé. Avant de mémoriser quelque chose de nouveau. Tu commences par la révision. Et après, tu mémorises. Et aussi, un des moyens, et une des causes les plus importantes dans la mémorisation, c'est d'invoquer Allah et de lui demander de te faciliter la mémorisation. Wallahu a'lam.
Mais mes sœurs, j'ai deux sœurs, où je peux mettre. Ils me dérangent quand je travaille.
Ouais, tu leur consacres un peu de temps pour jouer avec elles, Wadi. Et après, tu vas au travail et aux choses sérieuses. Il faut un peu de ça et un peu de ça.
Barakallah, Fik.
Fika barakallah, ya Julaybi.
Oustaz?
Naam.
Est-ce que Allah peut jurer sur lui-même?
Allah, il jure par lui-même.
Naam.
Yani, je ne connais pas ça. Je ne connais pas quelque chose dans laquelle Allah a juré par lui-même.
Ok. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Oustaz.
Non, tu vas d'aller à Obey.
C'est quoi un marhaba?
Hein? C'est quoi? Marhaba?
Marhaba,
yani, c'est pour dire à quelqu'un, t'es le bienvenu. Tu lui dis ahlan wa sahlan wa marhaba.
Non,
là. C'est quoi?
Ce que vous avez dit quand vous parlez de
Umm Salama. Quand on a parlé de Umm Salama, radiyallahu anha.
Naam.
Et à quel moment, au sujet de quel point, pour que je me rappelle?
Quand elle avait l'intention de partir. Et qu'elle avait croisé Abu Talha.
Quand j'ai parlé de l'Hijra.
Naam.
Quand elle a fait l'Hijra vers Médine.
Naam.
Donc, quand j'ai parlé de ça, on a parlé du fait qu'elle a croisé Uthman ibn Talha, radiallahu anhu, qui était mécréant, et qui l'a accompagnée durant ce voyage, il l'a protégée, il a veillé sur elle. Tout en gardant des distances et en baissant son regard, il y a des qualités chez cet homme pendant sa mécréance que malheureusement, il y a des croyants qui n'ont pas ces qualités aujourd'hui. Et par la suite, il est entré en islam. Lakin, si tu te rappelles du mot exact, dis-moi. طيب بارك الله فيك
محرم
ايوه peut-être c'est ça محرم
نعم محرم
المحرم c'est un homme يعني المحرم d'une femme c'est l'homme qu'elle ne peut pas épouser à vie comme son frère comme son père ou son mari aussi il fait partie de ses maharim de son mahram يعني c'est un homme qui a atteint l'âge de la puberté et qui est capable de veiller sur elle, que ce soit son frère, ou son père, ou son mari, son oncle également, tous les hommes qu'elle ne peut jamais épouser, ou l'homme avec lequel elle est mariée. Donc tous les hommes qu'elle ne peut jamais épouser, et l'homme avec lequel elle est mariée, ce sont ceux-là, ses maharim, son mahram. Et la femme, elle voyage pas toute seule. Elle voyage accompagnée d'un homme pour la protéger. Quand c'est un voyage, c'est-à-dire elle parcourt une distance de plus de 80 km. C'est clair pour vous ? Donc on va s'arrêter ici. Tfadal ya akhi.
Est-ce que si quelqu'un est musulman et qu'il apostasie et qu'il redevient musulman, eh ben ses œuvres avant qu'il apostasie sont toujours valables
Non, elles sont toujours valables. Là, je préfère que tu dises musulman au lieu de dire musulman. Si quelqu'un est musulman et par la suite il apostasie, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire apostasier, il sort de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Il sort de l'islam et après... Il regrette, il revient dans l'islam. Allah lui pardonne. Et lui garde ses bonnes actions qu'il a fait pendant qu'il était musulman. Il retrouve ses bonnes actions qu'il a fait pendant qu'il était musulman.
Wafik.
Wafikum barakallah. Lakin, faites attention à votre religion. Faites attention, n'écoutez pas tout le monde. N'écoutez pas tous ceux qui parlent. Surtout avec aujourd'hui avec ces réseaux sociaux, avec YouTube, avec Facebook, avec le reste que je connais pas qui sont apparemment encore plus dangereux et plus dangereux pour notre religion. Faites attention, n'écoutez pas tout le monde, tous ceux qui parlent ou qui cherchent à vous mettre des doutes sur votre religion, car personne n'est à l'abri de l'égarement. Préserve ta religion comme quelqu'un préserve un trésor immense qu'il possède. Et toi, ta religion, elle est plus grande que ce trésor. Ne tends pas l'oreille à n'importe qui. Et ne laisse pas des gens te mettre des doutes dans ta religion. Tu connais ta religion avec certitude, tu sais que c'est la vérité. N'écoute que les gens qui appellent à cette vérité pour protéger ta religion et ta foi. Surtout quand tu n'as pas les armes pour rejeter ces ambiguïtés.
Ya oustad.
Naam, tfaddal.
Est-ce qu'on peut continuer à fréquenter quelqu'un quand il est apostasié ?
Non, il ne faut pas le fréquenter. Il faut lui faire dua. Et si dans son entourage, il y a quelqu'un qui a la science, il discute avec lui. Ou il l'oriente vers une personne de science. Yani, si quelqu'un il vous dit qu'il a apostasié et qu'il est sûr que maintenant il est sur la vérité et qu'il n'y a pas de religion et que l'islam c'est un mensonge, orientez-le vers quelqu'un qui a la science et vous allez voir très rapidement qu'il n'a aucune preuve de ces choses-là. Lakin, si toi t'as pas les outils, t'as pas la science, tu ne sauras pas comment répondre à ces ambiguïtés, il peut même te mettre des doutes à toi aussi. C'est pour ça, se préserver prévaut sur être la cause de la guidée de quelqu'un. Et ça, Notez bien cette règle et appliquez-la dans votre vie. Se préserver prévaut sur le fait d'être la guidée d'autrui. As-salamatu la ya'diluha shay. Et ne crois pas que tu es à l'abri, que tu es très fort, tu es très intelligent. Non. Tu es guidé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Personne n'est à l'abri. Lakin, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage comme ça, orientez-le, dites-lui si vraiment tu es sûr que sur quoi tu es aujourd'hui, c'est la vérité, ça veut dire que tu détiens des arguments et des preuves. Alors viens discuter avec un homme de science. Viens discuter et exposer ses preuves et ses arguments. Et là, vous allez voir qu'il n'a rien du tout. Des fois, les gens, ils vont apostasier en suivant les patients, parce qu'il veut les interdits. Wallahu a'lam. Barakallahu.